Cette étude reposera sur l'évaluation d'un critère principal très particulier. Si vous regardez la littérature, vous verrez que jusqu'alors, le critère principal utilisé a été un critère d'index d'apnée-hypopnée. Bien sûr, on sait désormais que utiliser cette ventilation auto-asservie dans ses indications hors CERVHF, eh bien, permet bien sûr d'améliorer l'index d'apnée-hypopnée. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut vraiment rechercher? Et, enfin, je parle de l'index d'apnée-hypopnée centrale. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut rechercher? Est-ce que c'est ça qui va permettre d'améliorer les patients? On a souhaité vraiment aller plus loin que cet index d'apnée-hypopnée. Il y a derrière ça aussi la qualité de vie, qui est utilisée dans un grand nombre d'études, mais on voit qu'il existe d'une part plusieurs critères de qualité de vie, mais qu'on s'intéresse surtout dans cette étude à des populations très différentes, dont les critères de qualité de vie sont parfois très spécifiques de la pathologie sous-jacente et qui vont être difficiles à prendre en compte comme un facteur ou comme un critère principal d'évaluation. Et finalement, nous avons choisi la qualité du sommeil à l'aide d'un score ou d'un index qui s'appelle le score de Pittsburgh, qui est largement utilisé dans les études de recherche en somnologie, qui est tout à fait justifié dans le cadre de cette étude, car comme ça vous a été montré par Carole tout à l'heure sur une plaque de polysomnographie, vous avez pu voir que chaque apnée centrale se termine par un micro-éveil et que la répétition de ces micro-éveils induit une fragmentation de sommeil et que cette fragmentation du sommeil conduit à un sommeil de mauvaise qualité ressenti par les patients. Donc il y a tout intérêt à penser que si on doit traiter ces patients, on doit leur permettre d'améliorer leur qualité de sommeil, quelle que soit la pathologie sous-jacente, et que le meilleur moyen de le faire, ou le meilleur moyen de l'évaluer, c'est d'utiliser ce score de Pittsburgh. Les méthodologistes se sont penchés sur le nombre de patients à inclure, en sachant que nous avions plusieurs critères. D'une part, avoir un nombre suffisant de patients pour pouvoir retrouver une efficacité, quelle que soit la pathologie sous-jacente. Nous avions un critère réaliste, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible de suivre ou de traiter tous les patients relevant de cette ventilation sur l'ensemble de l'hexagone, mais en revanche, d'être aussi relativement représentatif de la localisation de tous les centres possibles en France, et c'est ce qui nous a conduit à un calcul d'effectifs dont je vais vous parler dans quelques instants. Ce recrutement va se faire néanmoins sur l'ensemble de la France. C'est une étude observationnelle ou un observatoire national qui intégrera une cinquantaine de centres, qui sont dits centres référents ou encore centres de coordination, qui vont permettre d'être sélectionnés en fonction de leur expertise et de leurs compétences, mais aussi devant tenir compte au sein de chacun de ces centres de la collaboration étroite entre neurologues, pneumologues, cardiologues et somnologues. Donc vous comprenez que si l'on veut avoir des résultats de qualité, on doit se donner les moyens en termes de coopération de ces différentes équipes. Alors, ce travail va se faire bien sûr à partir de ces centres qui sont considérés investigateurs, dont les résultats ou les data recueillis vont être acheminés par l'intermédiaire de questionnaires et d'un recueil informatisé qui va permettre d'amener ces données au chef de projet qui est accompagné par la SFRMS elle-même promotrice de cette étude, mais en étant encadré par une sorte de gouvernance extrêmement rapprochée, par un conseil de surveillance, un comité de pilotage et un conseil scientifique qui lui-même a été à l'origine de l'élaboration de ce projet. Les objectifs, c'est donc d'évaluer en premier lieu l'impact du traitement par la ventilation auto-asservie sur la qualité de sommeil de tous ces patients porteurs d'un syndrome d'apnée du sommeil central, en dehors de toute pathologie cardiaque s'accompagnant d'une fraction d'éjection altérée. Ça va être de pouvoir mieux catégoriser, de mieux caractériser ces différentes populations, à la fois sur le plan de la définition, comme on l'a vu tout à l'heure sur le plan nosologique, mais aussi en termes d'amélioration potentielle à attendre de l'utilisation de cette ventilation sur le plan fonctionnel, sur le plan de la qualité de vie. Nous verrons que nous aurons la possibilité d'aborder des données de morbimortalité et enfin et surtout d'y associer une évaluation médico-économique. Après discussion avec l'HAS, il a semblé important que cette première étude observationnelle soit rapidement accompagnée une étude plutôt contrôlée, randomisée, prospective, qui puisse porter sur la frange de population la plus importante qui va être intégrée dans ce registre, dans cet observatoire. Une première analyse, après l'enquête qui avait été faite, montre bien que c'est probablement la population d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qui devrait représenter la population la plus importante. Et donc, après un an d'ouverture de cet observatoire, nous proposons de débuter d'emblée, simultanément, une étude prospective portant plus particulièrement sur cette population-là et sur l'intérêt de la ventilation auto-asservie, mais cette fois-ci de manière randomisée, c'est-à-dire analysée par rapport à une population témoin. Je vous ai dit que le critère principal, c'était le score de sommeil de Pittsburgh, qui sera analysé à 6 mois, mais vous avez ici un grand nombre de critères secondaires, à la fois critères cliniques, à la fois critères symptomatiques et fonctionnels, à la fois critères de tolérance et à la fois critères spécifiques à ces différentes spécialités en termes de qualité de vie. Bien sûr, tous ces patients seront aussi analysés après 6 mois de traitement à l'aide d'un enregistrement polysomnographique qui permettra d'avoir des données à la fois objectives de sommeil, mais en même temps d'évaluation de l'évolution de l'index d'apnée hypopnée. Voilà c'est comment vont fonctionner ces centres. Globalement, ce schéma qui paraît un petit peu complexe est juste destiné à vous montrer que ces centres de coordination vont fonctionner avec des centres partenaires, qui sont des centres avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, de manière à ce que tout le monde puisse vraiment participer à cette étude, favoriser le recrutement, faire en sorte qu'il soit le plus exhaustif possible sur l'ensemble du territoire. Et les critères d'inclusion porteront donc avant tout sur, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, les patients dont l'index d'apnée hypopnée centrale est supérieur à 15 par heure de sommeil, nécessitant cette ventilation et ne présentant pas d'altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Compte tenu de ce que nous a dit Carole sur le syndrome d'apnée du sommeil complexe, on comprend très bien que devait être intégré dans ces indications les patients qui initialement avaient un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, qui sous l'effet de la ventilation en PPC s'est transformé en apnée centrale et qui persiste à distance de la mise en place du traitement, nécessitant, on l'a bien vu avec la présentation de Carole Philippe, cette ventilation auto-asservie. Les contre-indications, eh bien, c'est essentiellement toutes les patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, mais aussi avec des contre-indications à la ventilation, ou encore avec une prédominance d'apnée obstructive, ou encore lorsque le syndrome d'apnée du sommeil central a été traité initialement par pression positive continue qui a permis de résoudre le problème. Ce tableau, juste pour vous montrer que ces patients vont bénéficier d'un grand nombre d'explorations, que ce soit initialement ou au cours du suivi, qui va porter sur 3 ans, de façon à pouvoir recueillir le maximum d'informations. Je pense qu'il faut comprendre que cette étude est une opportunité extraordinaire de pouvoir enfin caractériser ces patients, juger de l'efficacité du traitement et pouvoir confirmer, nous l'espérons, l'intérêt de cette ventilation dans cette tranche de population. Et on voit ici, donc, bien sûr, tout a commencé nettement en amont par rapport à la mise en route de cette étude, que l'étude devrait débuter en janvier, février ou mars, en fonction des différentes réponses des autorités compétentes, et qu'elle est destinée à être poursuivie pendant 3 ans après la mise en place de cette étude. Donc ce que l'on attend de cette étude, c'est avant tout de pouvoir avoir une meilleure caractérisation de ces populations, de permettre de juger l'efficacité thérapeutique de la ventilation auto-asservie chez ces patients, insister sur le fait que nous avons une chance très, très importante de pouvoir enfin avoir cette initiative scientifique qui est unique aujourd'hui dans la collectivité scientifique internationale, de pouvoir aboutir à des propositions de bonnes pratiques cliniques, dont on a bien vu qu'elles n'existaient pas actuellement concernant cette population, d'être accompagné d'une évaluation médico-économique et de permettre d'aboutir au remboursement pour tous ces patients de l'utilisation de la ventilation auto-assertive. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.